Jusqu'au 27 mai, ce sont les Boutographies, le rendez-vous des jeunes talents de la photographie européenne au Pavillon Populaire à Montpellier. Ces jeunes talents s'exposent aussi hors les murs du pavillon et ce ne sont pas moins de 12 lieux, galeries, centres culturels ou médiathèques qui présentent leur propre choix d'artistes. Divergence FM a rencontré plusieurs de ces photographes afin d'éclairer leur démarche et leur parti pris esthétique. Retrouvez les interviews du 14 au 18 mai à 11h. Les Boutographies, programmation hors les murs, c'est jusqu'au 27 mai à Montpellier. Plus d'infos, boutographie.com et sur divergence-fm.org.
L'exposition de Thierry Fabre s'interroge et nous interroge sur l'évidence du regard par l'intermédiaire d'une maladie, la DMLA. À partir de sa propre parenté, elle se met en scène et nous fait partager ses interrogations d'un regard déformé jusqu'à sa négation. Un noir et blanc clinique transcendé par l'artiste en œuvre d'art. L'exposition de Thierry Fabre a lieu à la Grande Médiathèque Émile Zola, boulevard de l'aéroport, de 10h à 19h. Thierry Fabre, vous exposez à la médiathèque centrale Émile Zola une exposition d'un genre assez particulier puisqu'elle est à la fois, comme toujours, une exposition de photographes liée au regard, mais liée au regard par un autre côté qui est un côté presque médical. Alors expliquez-nous un peu déjà au départ ce qui fait l'originalité, en fait la spécificité du thème de l'exposition.
Médical, je dirais pas tout à fait médical, bien que ça soit une maladie quelque part, mais pour moi c'est plus lié à mon intime, c'est-à-dire ma peur à moi qui en ressort. Après, tout ce qui est maladie, c'est secondaire, ça m'a servi de base quelque part, mais voilà, moi c'était la peur de perdre ma vue en tant que personne, mais en tant que photographe aussi. Et donc j'ai voulu explorer tout ce contexte pour m'approprier un petit peu cette angoisse que j'avais.
Alors, la maladie en question, je dis ça parce que le spectateur, le visiteur qui arrive, lui, évidemment, il y pense parce qu'il y a eu des publicités, il y a eu un certain nombre de sensibilisations sur cette maladie, donc la DMLA, hein, qui donc est une perte progressive de la vue par le centre du champ visuel. Alors, donc, vous, c'est ce qui vous a intéressé, mais avec derrière une histoire personnelle que peut-être on peut rappeler.
Oui, bon, en faisant des recherches, c'est vrai que c'est une maladie qui vient avec l'âge et qui est aussi maladie génétique. Mmh. Et bien sûr, mon père l'avait. Ma mère, je ne sais pas, elle n'a pas vécu assez longtemps pour me le dire. Mais mon père l'avait. Donc voilà, je me suis positionnée dans le futur en me disant peut-être que moi aussi, je vais avoir cette maladie-là.
Alors de ce fait, on abandonne complètement le point de vue médical, bien entendu, et l'exposition, qui a un fort caractère autobiographique, puisque vous photographiez vous-même, donc ce qui n'est pas courant quand même chez les photographes. Comment vous avez fait le pas d'aller vers la photographie, l'autophotographie ?
Eh bien, petit à petit, le sujet que je traitais, c'était ma peur à moi, pas celle des autres. Mais pour pouvoir le montrer, il fallait que je montre ce que j'avais à l'intérieur de moi-même, en fait. Donc, la seule personne qui pouvait être prise, c'était moi. Bon, c'est un double travail aussi, hein, c'est un travail aussi sur moi-même. C'est vrai que les photographes, on a tendance à prendre les autres, mais pas soi-même. Et essayer de se projeter, c'est aussi de se projeter soi-même, quelque part. Donc, c'est venu comme ça. Voilà, c'était peut-être aussi plus simple pour moi de travailler avec moi-même et essayer de me mettre dans le bain d'une personne en cécité, qui je me suis projetée dans le futur. Voilà.
Alors en même temps, on ne peut pas ne pas imaginer que cette situation est particulièrement aiguë quand on est photographe. Parce que non seulement c'est l'œil, mais c'est aussi la possibilité de photographier. Donc, et pourtant, les photographies ne sont pas particulièrement angoissantes. Elles sont questionnantes, elle nous oblige à s'interroger, mais il n'y a pas d'angoisse.
Oui, bon, peut-être que je ne suis pas arrivée à trop le montrer, cette angoisse. Mmh. Hein, peut-être que elle n'était pas si forte que ça, je ne sais pas. J'ai essayé avec le... C'était plus une, oui, plus une angoisse qu'une peur. Mmh. Mais bon, elle était intérieure, donc je n'ai pas su peut-être la sortir trop... Je ne sais pas, peut-être mon troisième œil, qui est mon appareil photo, n'a pas su aussi jouer tout seul, mmh. puisqu'il était un petit peu... livré à lui-même, mmh. comme on dit.
Oui, mais en même temps, je trouve que c'est assez positif pour le visiteur, parce que au fond, on s'interroge quand on regarde, on commence à s'interroger sur notre propre œil, à nous de visiteurs, qui regardons ce double regard du photographe et de ce qui est photographié, et donc apparaissent tout ce que on voit sans le vouloir, sans le savoir, mais sans s'en préoccuper. Et tout à coup, on se dit, oulala, en fait, c'est très important et on n'en avait pas conscience.
Mm-hmm. Oui, tout à fait. Pour toute petite activité banale qu'on a chez soi aussi, hein, c'est un handicap. J'ai essayé de m'approprier mes lieux aussi. Hein, comme dans certaines photographies, j'ai essayé de mettre des petites tâches pour voir... qu'est-ce que je perdais dans mon espace. Mmh. J'ai de la chance, mes deux petits-fils, ils étaient dans les cadres, donc je les voyais, ils étaient mes guides. Il y a aussi cette grande image où je me mets du rouge à lèvres. Voilà, c'est la disparition un petit peu de la beauté dans cette photo qui est totalement floue. C'est pas un joli portrait, si on peut dire, mais voilà. Même sans la vue, on s'imagine belle. On s'approprie notre beauté intérieure, en fait. Voilà. Je ne sais pas si j'arrive à répondre à votre...
Alors, ce sont toutes des photographies en noir et blanc.
Oui.
C'est un choix permanent chez vous ?
Presque. Il est presque impermanent. Je commence à voir un petit peu en couleur pour certaines choses. Mais l'essentiel de mes photos reste encore en noir et blanc. J'ai fait toutes les phases des noirs et blancs, donc ça peut aller du plus clair au plus sombre, mais c'est vrai que je suis encore dans le très charbonneux. J'aime bien ce noir profond. Pour moi, c'est pas un côté sombre de ma personnalité, c'est je trouve que c'est beau, c'est voilà,
c'est très esthétique.
Bon.
Alors après, il y a deux types de formats. Alors, il y a une espèce de tension dans l'exposition parce qu'il y a des grands formats et puis des petits formats qui souvent sont des autoportraits. Mm-hmm. Et on joue entre les grands et ces petits formats.
Alors pour l'exposition, c'est vrai que j'ai été un petit peu aidée hein, par rapport au choix du format. Donc c'est vrai que c'est une tendance actuelle de jouer sur les formats différents, sur... des formats collés sur mur. Bon, je n'ai pas de la chance d'être sur un mur, mais bon, j'ai essayé de donner cette impression. Et des cadres qui... j'ai mis que 3 cadres, c'était pour montrer un peu plus l'enfermement de cette angoisse. Hein, donc, c'est tendance en ce moment de jouer sur plusieurs formats. Donc, voilà, j'étais...
Ça crée une dynamique entre les deux formats, l'un commentant l'autre en quelque sorte.
Oui. C'est un compliment.
C'est réussi.
Tout à fait.
Et alors, il y a également un petit exercice que j'ai fait, où il faut se cacher un œil, qui est, je suppose, un exercice où on dépiste la maladie en question. Mm-hmm.
Tout à fait. Bon, mais ça a été. J'ai ajouté ça justement pour expliquer un petit peu plus aux gens mes images. Et j'ai remarqué que quand les personnes regardent l'exposition, s'arrêtent et font l'exercice. Mmh. Ça m'a touchée parce que je suis venue plusieurs fois et il y a eu 3-4 personnes que j'ai vues, que ce soit des jeunes ou des personnes âgées. Serait-ce que par curiosité, on fait l'exercice. Et je pense que c'est bien de pouvoir le faire parce que c'est des maladies souvent qu'on ne s'en aperçoit pas et des fois c'est trop tard. Mmh. Voilà. Mmh. Donc,
En tout cas, ce qui est assez remarquable, c'est qu'au fond, on finit par faire ce petit exercice, mais on l'aborde par le côté esthétique. Ce n'est pas un message d'intérêt général qui va nous amener à ce genre de choses, ce qui d'ailleurs, à mon avis, serait moins efficace peut-être, mais par le biais d'une démarche esthétique du photographe. J'ai trouvé ça tout à fait très intéressant.
Bah, je suis bien contente que ça soit reconnu comme ça. Moi, mes images, j'essaye toujours d'apporter un sentiment de ma personnalité. Hein, je ne travaille pas mes noirs et blancs toujours à l'identique. Je ne suis pas comme certains grands photographes qui ont leurs noirs et blancs et qui ne décrochent pas. Bon, chacun leur choix. Mais moi, voilà, chaque photo a sa personnalité. C'est mon sentiment qui ressort. Donc là, voilà, c'était ce choix-là. Et je suis contente que ça soit vu comme ça.
Alors, ceci dit, quand on fait un travail comme ça, à la fois sur son propre regard, sa propre photographie, son travail avec l'appareil, etc., est-ce que ça ne représente pas un tournant dans votre façon de travailler la photographie ?
Oui, bien sûr. Bah, déjà, d'avoir fait ce projet-là, c'est un projet sur un long terme, on y réfléchit. C'est pas, bon, comme vous me connaissez, j'ai tendance plus à faire de la photo de rue, de la photo noir et blanc toujours, hein, c'était mes débuts. Et là, oui, j'avais envie de voir autre chose, une photo qui est différente, travailler sur un thème, sur un sujet d'actualité ou pas. Donc pour moi, oui, c'est une évolution. Je ne reste pas cantonnée sur un même thème et ça me permet de voir jusqu'où je peux aller aussi dans ma photographie.
Est-ce que l'autoportrait, c'est une chose qui va revenir dans votre travail ou qu'est-ce que vous en avez tiré de cette expérience ?
Tout grand photographe, tout photographe se fait des autoportraits.
Oui.
Viviane Meyer, Saul Leiter, ça c'est mes photographes préférés. Donc on ne les montre pas, mais on en fait parce que quelque part on est curieux de nous-mêmes aussi. Ça vient avec le temps, oui. Au début, non, il n'était pas question. Puis bon, je ne vais pas faire un travail sur moi-même, mais ça commence déjà. J'ai un titre d'ailleurs, des fois, c'est parce qu'on se cherche toujours quelque part, c'est elle et moi. Donc, de temps en temps, quand j'ai une bonne photo qui me plaît, ça va dans cet album-là, mais on ne me voit pas totalement. Donc, je donne juste des notions de ce qui est moi ou elle qui est moi. Voilà. Des reflets, parce que je travaille beaucoup en reflet aussi, donc la dernière fois, je crois que c'était. C'était sur évocation clandestine, donc sur un travail de reflet. Donc je continue toujours, mais avec moi aussi.
Merci beaucoup.
Jusqu'au 27 mai, ce sont les Boutographies, le rendez-vous des jeunes talents de la photographie européenne au Pavillon Populaire à Montpellier. Ces jeunes talents s'exposent aussi hors les murs du pavillon et ce ne sont pas moins de 12 lieux, galeries, centres culturels ou médiathèques qui présentent leur propre choix d'artistes. Divergence FM a rencontré plusieurs de ces photographes afin d'éclairer leur démarche et leur parti pris esthétique. Retrouvez les interviews du 14 au 18 mai à 11h. Les Boutographies, programmation hors les murs, c'est jusqu'au 27 mai à Montpellier. Plus d'infos, boutographie.com et sur divergence-fm.org.